Dans ce nouvel épisode, Transsonore tend son micro à de jeunes artistes de Seine-Saint-Denis.
Vous écoutez un podcast Transsonore. Transsonore, la transition et l'insertion par le son.
Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un lieu artistique et culturel ouvert à tout le monde.
Nous sommes les élèves de 4e 4 du collège Jean Jaurès à Pantin. Enfin, cette année, on dit pour Chine. Ce lieu se nomme Artagon. Vous passez peut-être devant tous les jours sans savoir ce que c'est.
Il se trouve dans l'ancien collège Jean L'Olive qui était à l'origine une fabrique d'allumettes. Pour y aller, on prend le métro, puis on marche jusqu'à la rue Cartier-Bresson, dans le quartier des Quatre Chemins.
Il fait froid et pas très beau, mais heureusement, Ségolène nous accueille chaleureusement à l'entrée de l'ancien collège.
Artagon est un lieu solidaire qui aide les artistes et qui accueille les curieuses et les curieux.
Quand on entre dans le bâtiment, on a un peu l'impression d'être dans une prison parce qu'il y a des coursives grillagées qui montent vers les anciennes salles de classe.
On dirait une prison.
On dirait qu'on est au baume.
Il y en a qui trouvent que ça ressemble à une prison, effectivement. Prison break.
Dans le hall, il y a une drôle de tour en métal et un tapis au sol comme une sorte de puzzle.
Parce qu'en fait, avant, c'était une fabrique d'allumettes avant d'être un collège, donc dans les années, fin des années 60. Et donc là, vous voyez une magnifique sculpture qui représente des allumettes.
Il y a des poufs, des transats et même un baby-foot et une table de ping-pong.
C'est trop beau, hein. Rien à
ouais,
dire.
Ouais, c'est rien à dire, c'est excellent.
Baby-foot et tout.
Bien. Vous êtes déjà au courant un peu de ce qu'on fait ici? C'est un ancien collège et maintenant on en reçoit donc des artistes pour 18 mois qui viennent donc travailler et se former. Et le but, c'est qu'à la fin de ces 18 mois, donc un an et demi, qu'ils elles puissent gagner leur vie avec leur pratique. Parce que donc, quand on est artiste, on peut avoir fait les Beaux-Arts par exemple. Donc c'est 5 ans d'études. Comme un master en communication, par exemple. Sauf qu'il n'y a personne qui vient nous chercher pour nous donner du travail à la fin. On doit se débrouiller tout seul, alors qu'on a le même niveau d'études que plein d'autres. Donc du coup, nous, on est là pour les aider à vivre leur vie après et vivre de ce qu'ils font, quoi. Donc voilà, donc, je vais vous montrer déjà ce qu'on a fait comme modification dans le lieu, parce que c'est un ancien collège, donc il y a quand même plein de gens qui vivent à Pantin et dans d'autres villes qui sont passés par là, même des gens qui ont l'âge de nos parents. Et du coup, c'était important qu'ils puissent revenir dans ce lieu quand ils le souhaitent, parce que c'est plus chez eux que chez nous, en vrai. Donc on va vous montrer ce qu'on a fait dans ce sens-là.
Ma mère, elle était là.
Ta mère, elle était ici?
Oui.
Ah bah voilà. Tu penses qu'elle y était en quelle année?
1985, 90, je crois.
Peut-être qu'on a son dossier scolaire, attention.
On va peut-être.
Voir si elle était meilleure que toi ou pas.
Non, je sais pas.
Donc là, c'est des salles de classe qui ont été ajoutées, d'ailleurs, ouais, années 80, un truc comme ça. Et en fait, nous, ici, on accueille des collectifs. Donc, ce sont des groupes de personnes qui travaillent ensemble et qui font, par exemple, de la scénographie ou de l'architecture, des choses comme ça. Donc là, par exemple, ils ont travaillé sur des défilés de mode à faire les décors. Ils peuvent faire aussi donc, tout ce qui est festival, concert, tout ça. Ils ont fait des trucs pour la ville de Pantin et tout. Et ici, ils ont fait pas mal de structures en bois. Donc tout ça, c'était pas là. Ils ont construit ça en, je sais pas moi, même pas une semaine.
Nous avons rendez-vous avec des membres du collectif Green Resistance.
Coucou Elliot.
On les rejoint dans leurs locaux. Nous sommes accueillis par leur mascotte, Béra.
Béra.
Une magnifique chienne qui ne comprend que l'italien.
Ce collectif regroupe des artisans qui fabriquent des objets et des structures de façon écologique et responsable, et surtout avec leur cœur.
Par exemple, ils ont fabriqué les bacs du potager dans la cour d'Artagon et aussi le terrain de pétanque pour que les gens puissent venir s'amuser.
Je suis Elliot du collectif Green Resistance. On est installé à Artagon ici depuis le mois de septembre, donc depuis l'ouverture du lieu. L'association Green Resistance, c'est un collectif d'artisans, d'artistes et de médiateurs. Et on essaye d'interagir sur le territoire ou à l'échelle de la France pour répondre à des projets de paysage, de scénographie qui incluent les populations locales pour la plupart. Ce sont des projets collaboratifs.
C'est quoi la scénographie?
La scénographie, c'est la transformation d'un espace dans le but de créer des volumes qui soit embelliront, soit serviront aux artistes qui réalisent le projet. Donc pour une exposition d'œuvres d'art, la scénographie ne sera pas la même que pour un spectacle de danse.
Et pourquoi Clean Résistance ?
Parce qu'on essaye d'être le plus engagé possible. C'est une résistance sociale d'abord. La plupart de nos projets ont une portée de transmission de connaissances. Et puis aussi parce qu'on essaye de travailler le plus possible avec des matériaux ou biosourcés ou réemployés. Biosourcés, c'est voilà, des matériaux qui vont être trouvés dans la nature à l'état brut sans avoir été transformés. Donc un panneau de contreplaqué n'est pas un matériau forcément biosourcé, mais nous, lorsqu'on fait de l'aménagement paysager, un exemple très concret, un des matériaux biosourcés qu'on utilise le plus, c'est du jonc de saule ou alors de la branche de châtaignier. Et avec ces branches qui sont très rectilignes, qui donc n'ont pas été transformées, on s'en sert pour faire du tressage de branches et pour monter des structures qui vont alors retenir la terre ou qu'on va tresser pour en faire des structures de cabanes, des palissades. Voilà ce que c'est un matériau biosourcé, c'est un matériau qui n'a pas été transformé.
Et on peut savoir qui travaille pour Clean Résistance et combien y a-t-il de personnes dans votre collectif ?
Maintenant, il y a une quinzaine de membres actifs. On a des architectes concepteurs, des paysagistes, on a des menuisiers ébénistes, on a un métallier, on a une fleuriste, une designeuse textile, une brodeuse, une sculptrice. On a des médiateurs de projets culturels.
C'est quoi un médiateur de projets culturels ?
Le médiateur, c'est celui qui fait le lien entre, par exemple, les habitants d'un quartier et ceux qui vont réaliser le projet. Par exemple, une ville qui demande à notre collectif de faire des aménagements pour un collège, par exemple, et donc qui nous demande de le faire en concertation avec les collégiens. Donc on va devoir aller rencontrer les collégiens, savoir ce qu'ils veulent, potentiellement réaliser le projet avec eux. Et le médiateur, c'est celui qui fait la médiation donc, entre ces artisans que nous sommes et les collégiens, puisque le médiateur s'assure à la fois que les informations soient bien compréhensibles par tous, chose qu'un artisan, parfois, peut avoir du mal à faire, puisqu'il a beaucoup de termes techniques en tête.
Que faites-vous comme genre d'installation ?
C'est assez varié. On fait principalement du paysage, donc c'est-à-dire la réhabilitation de l'installation, la transformation de jardins, mais aussi de friches urbaines. On fait des aménagements dans des collèges. On a travaillé l'année dernière à Calais, dans un lycée, pour fabriquer un parcours sportif potager. Et on fait aussi de la scénographie pure pour des événements comme des remises de prix ou des festivals. On crée aussi des décors d'événementiel.
Moi, je suis Baptiste, je suis paysagiste. Je fais partie de l'association depuis 3 ou 4 ans maintenant.
Sur quel projet avez-vous préféré travailler et pourquoi ?
C'est un projet au Festival des Ortillonnages d'Amiens. Qui a rassemblé bon nombre des membres de Green Résistance. Voilà, donc on a construit un jardin autour d'un conte. Donc ça a touché au paysage, parce que c'est un jardin, mais ça a touché aussi à la construction, avec divers matériaux. Donc on a construit un bateau, et puis on a construit des petits aménagements autour pour représenter le naufrage d'un navire sur les ortillonnages d'Amiens.
C'est quoi paysagiste ?
Alors, le paysagiste, c'est celui qui touche à tout l'aménagement extérieur. Donc, ça touche aux plantes. Donc, c'est cultiver le végétal et c'est aussi aménager des espaces extérieurs. Donc, ça touche aussi à la construction, ça touche à la menuiserie, ça touche au bois. Ça peut être au sol, des terrasses, du mobilier aussi. Ou ça peut toucher aussi à la maçonnerie. Comment est-ce qu'on modèle aussi les terrains ? Mais le paysagiste peut aussi avoir ça peut être aussi un métier de conseil à l'échelle territoriale. Ça peut aussi servir aux politiques qui sont menées sur des grands territoires.
Vous aimez votre métier ou pas du tout ?
Je suis très heureux d'avoir ce métier qui valorise les espaces extérieurs, qui, je pense, aujourd'hui a du sens. Voilà.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
J'aime bien la diversité, puisque nous, on a la chance de pouvoir et concevoir et réaliser ce qu'on conçoit. On s'occupe physiquement aussi.
Moi, c'est Clément. Moi, je suis menuisier.
En quoi consiste votre travail ?
Donc c'est tout ce qui touche au bois. Donc voilà, je construis un peu tout et n'importe quoi.
Quelle est l'ambiance de travail ?
C'est génial, on est un super collectif. On arrive à partager plein de moments et on est dans une dynamique où chacun ramène des projets qui sont complètement différents et qui ont vient chacun de milieux complètement différents. C'est très valorisant de bosser comme ça.
Moi, c'est Constantin. Je suis charpentier menuisier au sein de Green Résistance et à mon compte à côté.
Sur quel travail travaillez-vous en ce moment ?
Alors là, je viens de finir un projet de meubles pour un ami qui est DJ. Donc je lui ai fait un meuble pour intégrer ses platines, ses enceintes, etc. Et à partir de demain, je vais travailler un mois en freelance dans une boîte qui fait de la scénographie. C'est une boîte qui fait des constructions pour des gros événements comme des salons, etc. pour des entreprises. Donc c'est assez varié.
Faites-vous des ateliers pour les jeunes ?
Ça fait partie de projets qu'on aimerait mettre en place avec Green Résistance. Voilà, on est plusieurs dans l'association à avoir envie de transmettre. Si vous voulez apprendre à travailler le bois, c'est avec plaisir qu'on travaillera ensemble.
Est-ce que votre association aide la planète ?
Pour ça, on essaie de faire les choses de manière respectueuse. On travaille essentiellement avec des matériaux de récupération. Bientôt, on va récupérer tout le matériau qui a été utilisé pour le défilé Dior. On essaie de travailler proprement, de pas acheter ou faire produire des choses qui sont déjà disponibles quelque part, en liberté.
Et en fait, le projet ici de Green Résistance, c'est qu'ils ont commencé donc à modifier la cour, vous voyez, à planter des choses. Et en fait, le département du 93 nous donne de l'argent pour qu'on casse le béton et qu'on plante des trucs. Nous végétalisons et donc c'est un budget d'écroutage.
Et juste là, il y a une école ?
Oui, bah là, on partage donc la cour avec l'école élémentaire Vaillant. Il va y avoir un projet de serre, justement, qui va être construit par Green Résistance. Il va y avoir des ateliers avec les élèves de l'élémentaire. Et pendant la récré, ils pourront regarder ce qu'ils ont fait pousser lors des ateliers. Donc, on va pouvoir passer de l'autre côté. Et là, donc, du coup, je vais vous montrer une partie à laquelle vous pourrez accéder quand il fera beau, puisque c'est ouvert à tout le monde. Parce qu'en fait, là-bas, c'est l'espace de travail. Et ici, c'est l'espace public. Par exemple, le mercredi, il y a plein de collégiens du collège Jean Lolive qui viennent se poser là après les cours. Il y a de l'espace. Et en fait, ici, donc, il y a la cantine. C'est une association qui s'appelle Le Pas Si Loin, qui a un local un peu plus loin. Et en fait, comme ils travaillent autour de la cuisine, de la nourriture et tout, et pas nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de cette cantine ? Et ben, on s'est dit, on va la filer au Pas Si Loin. Et comme ça, eux, ils vont pouvoir faire à manger et à boire pour tout le quartier à prix libre. Donc ça veut dire que si on n'a pas d'argent pour se payer un café, une soupe ou une part de gâteau, et on peut dire, écoutez, j'ai 20 centimes, est-ce que vous acceptez de me vendre ce truc-là à 20 centimes ? Et la réponse est systématiquement oui. Et pour les enfants, on peut avoir un sirop gratuit en échange d'une devinette. Donc il y a plein d'enfants qui viennent voir Antonin et qui veulent des sirops.
Dans la cour, Antonin vient à notre rencontre. Il s'occupe de la cantine Pas Si Loin qui a ouvert dans l'ancien réfectoire du collège. Antonin nous invite à visiter la cantine. On voit plein de meubles différents. Il nous explique que tous les meubles ont été donnés par les habitants du quartier.
On entend les bruits du lave-vaisselle et d'autres machines. Il nous montre les lieux avant de répondre à nos questions autour d'une table.
Alors là, on vient de rentrer dans la cour de l'ancien collège. Donc on est rentré par l'ancien parking des professeurs, qui maintenant est un peu l'entrée principale. On a une rampe qui nous mène du coup à la cantine. On a fait des travaux pour transformer l'espace. Donc on a ouvert, il n'y a plus de salle des professeurs qui est un peu agrandie. On a récupéré du mobilier scolaire. On a demandé à plein d'habitants de nous donner des meubles. Et on a eu pas mal de récupérations. Et donc on a fait une petite fresque avec des bénévoles de l'association pour égayer un peu l'espace. On a construit un comptoir, parce qu'il n'y avait pas de comptoir évidemment. Et du coup, cette grande salle, ça devient une salle pour accueillir des repas, des moments conviviaux pour les habitants et habitantes du quartier.
Comment avez-vous eu cette idée ?
L'association Pas Si Loin existe depuis depuis 10 ans. Et le projet initial qui a fondé l'association, c'était des femmes du quartier qui n'avaient pas d'endroit où se retrouver et qui se sont montées en association pour créer un espace et un lieu de rencontre et de vie pour les femmes du quartier. parce que le quartier était très marqué par la présence masculine. C'était des bistrots où il y avait beaucoup d'hommes. Et elle ne se sentait pas à l'aise dans ces lieux, et donc elle voulait un lieu pour elle. Ce qui a donné naissance à un autre local qui est juste à côté du périphérique, donc à Pantin aussi. Et c'est un petit local de 70 mètres carrés, un lieu de rencontre avec une programmation régulière qui a fait que les gens se retrouvaient. Et il y avait tout un projet autour de la cuisine. On a réfléchi comment on pouvait faire vivre cette cuisine. On s'est rendu compte que dans le quartier, il y avait plein de gens en fait, qui rêvaient de travailler dans la restauration, de se professionnaliser et d'essayer des choses en, fait, en cuisine. Et donc on a travaillé pour monter un programme et qu'on est en train de construire encore de professionnaliser les talents culinaires du quartier. Et enfin on a réussi à mettre les pieds dans un super local qui est du coup l'ancienne cantine scolaire, donc elle est toute équipée. Donc si vous voulez venir voir l'envers d'une cuisine scolaire, je vais vous montrer le matériel qu'on a. Vous allez découvrir les bruits de plonge dans toute l'équipe. Alors on a des plats du jour qui changent chaque jour et on travaille presque exclusivement en bio, sauf pour la viande pour l'instant, mais en tout cas voilà, avec des produits de bonne qualité et une cuisine de saison assez sympa. On a une cantine participative à prix libre, donc en fait c'est des bénévoles encadrés par un professionnel qui viennent préparer des plats qui sont ensuite du coup distribués ou vendus à prix libre, donc les gens choisissent ce qu'ils peuvent mettre. Alors ça on est en train de le remettre en place parce que ça demande pas mal d'organisation entre les bénévoles, les espaces de cuisine, parce qu'évidemment il y a des normes en cuisine assez compliquées, donc il faut être sûr que des bénévoles qui sont pas professionnels, qui viennent juste donner un coup de main, les respectent. Et on a tout ce projet d'émergence des talents culinaires du quartier qui est là d'accompagner des personnes. Donc nous on n'est pas formateurs en cuisine, mais on va utiliser l'espace ici pour permettre à des gens du quartier de proposer, essayer des repas, voir c'est quoi devenir un cuisinier professionnel, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il faut faire. Et du coup, une fois que les personnes ont un peu essayé, les orienter vers des structures, parce qu'à Pantin, il y a les Rollers Restauration, par exemple, qui sont des professionnels de la formation en cuisine. Et l'idée, c'est de travailler avec d'autres structures, d'envoyer vers des personnes, vers les accompagnements pour les personnes. Et à côté de ça aussi, pour équilibrer un peu, on fait du traiteur, ou comme aujourd'hui, là, voilà, on accueillait un événement, on va dire, privé pour permettre d'équilibrer tout ça. Parce que voilà, l'enjeu d'ici, c'est de coûter pas cher et d'être un lieu de quartier. Mais pour faire ça, dès que la cuisine, c'est quand même un peu compliqué, parce que il faut, en cuisine, il faut un cuisinier, un commis, quelqu'un à la plonge, quelqu'un au service. Donc, si c'était que des bénévoles, ça serait trop compliqué parce que c'est un vrai travail, c'est des gros créneaux horaires. Et bah, si c'est des salariés, bah, du coup, il y a des salaires. Donc, il faut arriver à trouver comment ça fonctionne pour que ça soit pas cher, accessible aux gens du quartier. Et en même temps que il y a des gens qui doivent être payés pour leur travail, ce qui est normal. Et nous, quand même, on essaye d'avoir toujours, même tout le temps, un peu un petit côté... un petit côté un peu plus sympa. Donc on a toujours le thé et le café qui est à prix libre, donc les gens donnent ce qu'ils veulent pour venir boire un thé ou un café. Et aussi ce qu'on aimerait mettre après en place, c'est même sur les jours où il y a un plat du jour, c'est toujours garder une partie du menu, genre une soupe ou un curry ou quelque chose comme ça, qui soit à prix libre, comme ça tout le monde peut venir manger autour de la table selon ses moyens.
Comment êtes-vous sûr que les gens donneront de l'argent?
Dans l'ancien local, on faisait la cantine solidaire une fois par semaine. Je crois qu'au final, en ticket moyen, c'était 3-4 euros. Mais parmi les gens qui donnaient, c'était plus entre 8 et 9 euros. Et la moitié des gens donnaient. Il suffit que ça s'équilibre.
D'où viennent les ingrédients?
Alors les ingrédients, nous, on travaille principalement... Enfin, on a plusieurs fournisseurs, des maraîchers, des producteurs qui sont en Île-de-France. Notamment, on a une association qui est à Pantin qui s'appelle le Marché sur l'eau, qui récolte, enfin, qui rassemble des producteurs qui sont le long du canal de l'Ourcq et qui sont censés livrer en bateau.
On va continuer par là. Ici, c'est la ludothèque. Parce qu'il n'y avait pas de ludothèque aux quatre chemins.
C'est quoi,
Ouais, exactement. C'est que pour venir jouer et s'amuser. Et en fait, les personnes de la ludothèque nous ont dit « Oui, on aimerait faire une ludothèque dans le quartier, mais on ne trouve pas d'espace. Est-ce qu'on peut le faire ici ?» Puisque c'est quand même, ça reste un bâtiment de la ville. Et donc, forcément, on répond oui, puisque notre but, c'est d'ouvrir le lieu aux habitants. Alors, on va continuer ici. Donc en fait, ici, on se trouve à l'entrée du public. Et en fait, les gens, ils peuvent juste simplement venir se poser ici comme si c'était un parc, en fait. C'est un peu l'idée. On a créé donc Green Resistance, que vous avez vu tout à l'heure. Ils ont construit ça en une matinée. Voilà, le but, c'est que les gens, les jeunes comme vous, les collégiens, les personnes âgées, tout le monde puisse venir pique-niquer, se poser ici, voilà. Parce qu'en fait, dans le quartier, il n'y a pas vraiment de parc avec des arbres où on peut se caler tranquille, quoi. Donc on s'est dit que c'était cool d'offrir cette possibilité. Vous pourrez venir ici après les cours, le week-end, le mercredi, juste profiter de cet espace et aller gratter des sirops gratuits. Bon, du coup, on va refaire tout le tour.
Merci.
Allez-y, bienvenue. Vous voyez les portes sur le premier et deuxième étage, c'était les salles de classe. Et en fait, dans ces salles de classe, il y a à chaque fois deux résidents qui se partagent un espace. Et vous allez voir que ça peut être aménagé de façon différente. Donc on a des moments où on se réunit tous ici à la fin d'une journée de travail. Et puis on boit un petit verre, on joue. Parfois, on a fait du karaoké même. Donc voilà, ouais, on essaye de rendre le truc convivial, parce que le but, c'est pas non plus que ce soit un lieu de travail, bah justement comme une école ou comme une entreprise. On est entre, on a tous et toutes à peu près le même âge, on est des jeunes et on a envie de s'amuser, quoi, tout simplement.
Ils vont tous vouloir être artistes, là.
Bah ouais. Donc ici, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on vient ici pour 18 mois, on répond à un appel à candidature. Vous savez ce que c'est, un appel à candidature ou pas? En fait, nous, on poste... un poste, et on explique qu'il y a de la place ici pour tout le monde pour 18 mois, on explique tout ce qu'on met à disposition, et les gens s'inscrivent. Donc là, par exemple, on a eu 800 pour 50 places. C'est un jury, donc un jury de professionnels, de gens qui travaillent dans la culture, dans l'art, et qui se réunissent et qui choisissent les profils. Donc c'est quand même payant, c'est pas gratuit. Pour une place en atelier, c'est 100 € par mois. Et pour une place en bureau, qu'on va aller voir, là, c'est 50 €. Et en fait, ces frais-là, nous, ça nous aide juste à payer l'électricité, le chauffage, de quoi faire fonctionner le lieu, quoi. À côté de ça, donc, on offre aussi à ces personnes des formations et des accompagnements. Donc, des formations, ça peut être des formations pour utiliser un logiciel ou pour apprendre à faire une facture, tous les outils dont ils ont besoin pour se professionnaliser. Et ces formations, elles sont ouvertes à tout le monde. Quand on est un jeune artiste, il faut aller chercher de l'argent pour réaliser des projets.
Pour gagner sa vie aussi.
Pour gagner sa vie, exactement. Donc voilà. Je vais prendre quelques clés en mode passe-partout. Donc, quand je vous disais qu'on mettait à disposition plein de choses, on met à disposition des outils, et parfois, ça, vraiment des outils au sens propre du terme. Parce que, imagine, t'es un artiste et tu veux construire un truc comme ça. Chez toi, t'as pas le matériel qu'il faut ou les outils pour le faire, peut-être. Et la place, surtout. Donc, quand tu viens ici, on te donne les outils, on te les met à disposition pour que tu puisses faire tout ce que t'imagines. Donc, je vais vous montrer une pièce qui sert à ça. Entrez. Vous savez quelle classe c'était ? Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, on a recouvert tout simplement pour faire des grands établis. Et en fait, là, vous voyez, il y a un mur littéralement avec plein d'outils et plein de machines, donc qui permettent de travailler le bois, le métal, une machine à coudre. On peut faire de grandes choses. Et donc, je vais vous montrer les studios vidéo et son. Joseph, on te dérange juste pour montrer le studio.
Bonjour.
Waouh, en plus on voit un logiciel et tout ouvert, genre c'est trop stylé. Allez-y, vous pouvez regarder.
Bonjour.
Vous étiez en train de... On vous dérange pendant que vous bossez là ?
Non, je ne me dérangeais pas, mais j'étais en train de bosser sur un morceau que je fais, qui est un morceau de musique qu'on appelle la musique ambiante. Genre c'est pas y a pas de percussion, de c'est assez planant.
On peut écouter un morceau.
Ouais, bien sûr. En fait, j'essaye de transcrire les dessins d'une amie en musique. J'essaie de... C'est pour violoncelle, trompette et synthétiseur.
Après, hein.
C'est
bon, ça
me l'a
détendu
là.
Je peux s'allonger dans le studio là. Ouais, ouais. Oh. Là, vous pouvez voir la cabine si vous voulez.
Joseph Chianoudi Lembo travaille aussi dans cet espace de vie incroyable. Joseph est pianiste et compositeur, mais il écrit aussi des poèmes. En fait, il s'amuse avec beaucoup de choses.
Quand on le rencontre, il est en train de faire du montage sur son ordinateur, dans le studio son, au fond d'un couloir, au rez-de-chaussée où il fait hyper chaud.
Joseph a l'air assez timide.
On a l'impression que tout bouillonne dans sa tête.
Comment êtes-vous arrivé à Artagone?
Artagone, ouais. J'ai candidaté, mais il y a beaucoup de concours dans l'art et pas trop mon fort. Dès qu'il s'agit d'envoyer des dossiers de candidature et tout, je suis pas toujours à l'aise. C'est une partie de l'art aussi qu'il faut connaître, c'est que il faut un peu se battre pour avoir certaines choses. Et c'est souvent à travers des dossiers où tu présentes ton travail. Ça demande de savoir bien exprimer son travail.
Aimez-vous ce que vous faites ?
J'aime ce que je fais. Même quand c'est pas de la musique pour moi, c'est pour d'autres personnes ou pour des marques. Je travaille pour Hermès beaucoup et je fais des musiques de leur campagne et des choses comme ça. Et en fait, c'est toujours assez marrant. C'est des occasions un peu uniques de retravailler en permanence ce qu'on sait faire.
Vous êtes un artiste pluridisciplinaire. Préférez-vous l'écriture, le dessin ou la musique ?
C'est difficile de savoir ce que je préfère entre la musique, le dessin et l'écriture. Il y a des choses, en revanche, qui me préfèrent, moi. La musique, en ce moment, me préfère parce que j'ai plus de travail en musique. J'estime qu'on n'est pas les seuls à décider. C'est les choses qui te choisissent aussi. Et donc, là, en ce moment, c'est plutôt la musique.
Que ressentez-vous quand vous jouez du piano ?
Bonne question. Quand je joue du piano... ce que je ressens en général, c'est la musique en train de se faire. Voilà, on oublie un peu le temps qui passe quand on aime la musique et elle peut aussi nous faire ça en tant qu'auditeur, auditrice.
Est-ce que vous essayez de transmettre un message à travers votre art ?
Je me pose rarement la question du message que je renvoie à travers les choses que je fais. En revanche, il y a des choses qui me tiennent à cœur, à savoir le fait de ne pas être déterminé ou de se déterminer à travers une pratique unique dans laquelle on s'enferme. Et ça, c'est pas évident, parce qu'en France particulièrement, on tient à ce que les gens fassent des choses très identifiables et on pardonne rarement aux gens d'aller dans toutes les directions. Voilà. Et donc ça, c'est un message qui indirectement en fait, se transmet à travers ce que je montre.
De qui vous inspirez-vous pour créer votre art ?
J'ai toujours été attiré par le travail de Marcel Duchamp. C'est un artiste au début du XXe siècle qui a même choisi des objets en fait, courants et qui a dit « ça, c'est une œuvre d'art ». Et je trouve que c'est une belle façon de voir les choses. Si vous avez envie de voir les choses différemment, bah, il suffit de le dire parce que le langage est magique. On dit bien « oui » pour devenir le mari ou la femme de quelqu'un. C'est juste un mot. Mais c'est énorme. Donc aussi, choisir qu'une chose devient de l'art, c'est des choses qui sont intéressantes et qui sont en votre pouvoir aussi.
Quelle est votre œuvre la plus connue ?
L'œuvre qui a eu le plus de retentissement, je dirais, c'est un morceau qui s'appelle « Caresse », qui est l'extrait en fait, d'un album que j'ai fait pour les chiens, qui s'appelle « Musique de niche ». C'est un petit jeu de mots.
Est-ce que votre métier vous permet de gagner votre vie ?
La musique, c'est pas le milieu le plus facile pour gagner sa vie. J'ai la chance de travailler avec pour des marques et tout ça. Et ça, ben, dans le contexte actuel, c'est quand même ce qui rapporte le plus d'argent. Mais j'en vis. Et c'est pas tous les mois la même chose. Parfois, il y a des mois où je touche rien et donc il faut que je sois avec mon argent, il faut que je sois assez responsable.
Du coup, c'était la dernière question.
Bah, merci.
Merci.
Je peux vous jouer un petit truc? Elles étaient super intéressantes.
Continuez la visite. Alors, là, ici, on a les bureaux partagés. Donc, comme je vous disais, il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'un atelier pour travailler. Mais juste une place de bureau, ça suffit. Je vais juste faire passer la tête à ces très chers collégiens pour leur montrer un atelier ouvert. Ça tombe sur toi. C'était une salle de classe. Il y avait le tableau qui était là, toutes les chaises qui étaient, les tables, et maintenant c'est comme ça. Donc ça, c'est Sumboy. Donc Sumboy, il a un invité qui s'appelle Histoire Crépue sur Instagram, TikTok.
Et du coup, je travaille moi sur l'histoire coloniale française. Moi, je parlais de l'histoire du Burkina, par exemple, ce matin. Mais je parle souvent de différentes histoires. Il y avait le film Tirailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bah, la semaine dernière, il y avait un acteur du film qui est venu. Enfin non, il y a deux semaines, un acteur du film qui est venu ici pour parler en live. Moi, c'est souvent des trucs sur l'histoire que je fais, surtout sur toutes les plateformes. Mais après, c'est surtout sur Insta que je suis vraiment là.
T'as ouais. Combien d'abonnés sur Insta, Balance?
C'est 83 000, je crois, ou 84 000, comme ça.
Il est fou. Ouais. C'est fou, ça. Vous voyez pas qu'il a une lampe d'influenceur?
C'est ça.
Il en a deux, en plus.
Vous êtes vraiment bien ou
pas? Un petit peu, ouais, par YouTube.
La bouffe?
Au premier étage, nous entrons dans les studios du vidéaste Harilei Rabenjamina.
Harilei adore mélanger vidéo et musique. Son studio est rempli d'accessoires de vêtements. Il y avait même un blouson de motard.
On fait son interview à côté de son ordinateur.
On n'a pas encore vu ses vidéos, mais on est très curieux d'en savoir plus sur son métier.
Donc je suis artiste résident ici à Artagon, j'ai un atelier. Et je fais surtout des films, des performances et des installations aussi. Et il y a beaucoup de musique aussi, souvent, je dois dire.
Pourquoi vous avez choisi d'associer musique et vidéo?
Parce que la musique, j'ai l'impression que c'est l'art le plus universel. J'ai l'impression qu'on a tous un rapport à la musique. Et c'est une forme d'art hyper diffusée. Et la vidéo, c'est pareil, c'est un rapport. J'ai l'impression qu'on n'a pas besoin d'être amateur d'art contemporain pour regarder une vidéo, en fait. Tout le monde a un rapport à la vidéo, soit à la télé, au cinéma, sur nos téléphones portables. La musique et la vidéo, c'est deux choses qui m'intéressent parce que j'ai l'impression que c'est hyper universel et que ouais, ça peut toucher tout le monde.
Pouvez-vous décrire votre métier plus précisément, s'il vous plaît?
Moi, dans mon cas, si je dois vous décrire un peu plus en quoi ça consiste, je viens ici dans cet atelier, je me pose. Parfois, je fais des choses administratives comme les mails, etc. Ça fait partie du travail des artistes. Le fait de trouver des financements aussi, le fait de trouver des endroits où ce travail va pouvoir être montré. Et parfois, je me pose et j'écris. J'essaie de me mettre toutes mes idées sur le papier. Et ensuite, je réfléchis à comment est-ce que je vais pouvoir les réaliser. Donc, ça passe par de la recherche. Je lis des textes, des livres, je regarde des images, je regarde des films, je regarde des clips. Et puis, ça passe par de l'écriture. Donc, bon, en gros, voilà, je fais plein de choses ici, mais je viens ici pour écrire et faire de la recherche, plutôt.
Est-ce que vous étiez bon à l'école ?
Non, pas tellement. Je pense que j'avais des capacités, mais comme beaucoup de gens, en fait, parfois, on ne trouve pas l'envie de bien étudier. Voilà.
Sur quelle plateforme faites-vous des vidéos ou exposez-vous vos œuvres ?
C'est plutôt dans des galeries, des musées ou en ligne sur des sites spécifiques. Et puis, j'ai déjà montré des trucs sur Instagram aussi, mais assez peu. Mais sinon, c'est hébergé sur Vimeo. Mais,
Si vous étiez une musique, laquelle seriez-vous ?
Ça pourrait être un morceau de rap ou de R&B qui aurait emprunté un morceau de musique classique pour l'instrumental.
Quel message ou quelle émotion vous voulez représenter ?
Ben, je pense qu'il y en a beaucoup, mais je pense que j'aime bien des formes de mélancolie un peu joyeuses.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ?
Ça dépend. Parfois, j'adore le moment où je suis dans la recherche de ce que je vais faire. Parce que là, je peux fantasmer totalement sur « Oh là là, ça va pouvoir être un truc de fou. Ça va être le meilleur truc que j'ai jamais fait. » Ça peut partir dans tous les sens, donc ça peut être un moment hyper excitant. Et je pense le moment où je finis de réaliser quelque chose et où je regarde pour la première fois ce que j'ai fait aussi, je crois que là, c'est un moment qui peut être riche aussi, et émotionnellement, mais aussi parce que j'adore pouvoir le partager ensuite et faire que ça m'appartienne plus aussi.
Que pensez-vous d'Artagon ?
Eh ben, je suis très content d'avoir un atelier ici. Je suis content d'avoir été choisi, forcément. Et je trouve que c'est cool d'avoir d'être dans un endroit à proximité de plein d'autres artistes qui sont à peu près de la même génération et qui, avec qui je pense que moi, en tout cas, j'ai des choses en commun et à partager. Et aussi, en plus de ça, c'est un endroit qui quand même nous soutient en tant qu'artistes, qui nous amène à faire des rencontres, comme ici, maintenant, mais aussi sur des choses beaucoup plus pragmatiques, des questions administratives, de trouver des financements, voilà. C'est important pour les jeunes artistes, je pense. Et aussi, c'est la première fois que j'ai un atelier. J'avais pas eu d'opportunité d'avoir un atelier avant. Donc ça, c'est précieux parce que je vis dans un petit studio à Paris. Et c'est bien d'avoir un endroit où on vit et où on dort, etc., qui est le lieu de vie, quoi, et un endroit où on va travailler. Parce que si on reste tout le temps dans notre petit studio, etc., pour et travailler et vivre, parfois ça devient un peu compliqué, surtout même pour le stockage. Donc là, je suis content d'avoir un peu de place.
Voilà. Merci.
Merci. Merci à vous. Merci
beaucoup. Trop bien, super.
Bravo, trop bien.
Du coup, on peut continuer de monter.
Nous venons de voir le film de Ryan Misridji dans la salle de projection d'Artagon.
Ryan est un artiste vidéaste qui adore filmer sa famille et ses proches. Il est très sympa.
Nous l'interviewons dans son atelier où il y a une très grande télé, forcément.
Et aussi pas mal de mangas. Comment vous vous appelez ?
Je m'appelle Ryan Misridji.
Quel est votre métier ?
Mon métier, je suis artiste vidéaste. Je filme ma famille.
Pourquoi vous filmez vos proches ?
À la base, c'était un peu par facilité. C'était les premières personnes que j'avais à ma disposition. Au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, l'histoire de ma famille, je la connaissais presque pas du tout. Et au fur et à mesure, c'est devenu un peu une enquête, de filmer ma famille. Et du coup, voilà, là maintenant, je mène un peu une enquête sur l'histoire de ma famille. Et du coup, je suis pas prêt d'arrêter.
Quel message vous voulez faire passer dans vos œuvres ?
J'ai grandi en banlieue parisienne, du coup à Asnières et Gennevilliers. Et c'était un peu compliqué au début de m'affirmer en tant qu'artiste parce que mon vécu et mes références, c'était pas quelque chose qui était accepté dans ce qu'on appelle les institutions artistiques. Donc du coup, si je dois faire passer un message, c'est juste qu'on est des gens normaux. Et prenez les histoires comme elles sont et les histoires existent. Quoi.
Du coup, je vais te tutoyer.
Ouais, avec plaisir.
Quel est ton projet actuel ?
Il y a 2 ans. En fait, j'ai fait une trilogie qui était sur ma famille. En gros, j'ai fait 3 films sur 3 générations au sein des Mourinhos, la cité où j'ai grandi. Du coup, il y avait un film sur ma génération avec mon cousin Samir, un film sur mes tantes et un film sur mes grands-parents. Et là, en ce moment, je suis en train de faire la suite du 2e film qui s'appelait Le Jardin. Et en fait, en gros, l'histoire de ce film-là, c'est que c'est mes tantes qui racontent leur histoire de comment elles ont grandi dans ce quartier-là, au sein de ce quartier-là. Et dans ce film-là, quand je l'ai fait, en fait, il y avait une petite séquence où elle racontait qu'en fait, tous les étés, elle retournait en Algérie pour retourner voir la famille de mes grands-parents. Et en fait, elle trouvait qu'en fait, le voyage, c'était le plus beau moment de l'année et c'était quelque chose qu'elles attendaient beaucoup. Donc du coup, en ce moment, je suis en train de travailler sur ce film-là, à faire ce film-là.
Est-ce que tu aimes ton métier ?
Ouais, j'aime beaucoup mon métier. Et avec le temps, j'ai compris que je ne pouvais pas faire autre chose. Et bah, je sais pas, c'est une espèce de liberté qui est très importante pour moi. Donc ouais, enfin, j'aime beaucoup mon métier.
Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ?
En vrai, c'est de rencontrer des gens. Déjà, c'est de vous rencontrer, vous. Ça me fait vraiment super plaisir. C'est le rapport au public. Et le milieu artistique, c'est un milieu où on rencontre énormément de personnes avec des profils vraiment très différents. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure chose, quoi.
Est-ce que tu gagnes ta vie ?
Ouais. Pour l'instant, moi, je suis assez chanceux et je gagne ma vie. Je vends un peu des vidéos. Et c'est souvent des droits de diffusion où des fois, je montre mes films dans des musées, des trucs comme ça. Et des fois, c'est eux qui me payent.
Pourquoi vous êtes venu à Artagon ?
Et bah, déjà pour deux choses. Quand artiste, c'est bien de rencontrer des gens. Et Artagon, en fait, il proposait ça dans les ateliers. Rencontrer des artistes, d'autres artistes, des commissaires, des professionnels de l'art. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, juste tout simplement, c'est très dur d'avoir un atelier. Et j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'artistes. Donc j'aimais beaucoup le travail qui postulait. Donc je me suis dit, ce serait super intéressant de passer un an et demi avec ces gens-là, quoi.
Viens qu'on va chez elle te lancer.
On entre dans une ancienne salle de classe qui est devenue l'atelier d'Ismaïl Alouif Dili.
Un artiste dont les œuvres parlent souvent des personnes marginales.
On aperçoit un bureau et surtout ses créations. Des tableaux, une chaise assez spéciale en béton.
Il nous propose de nous asseoir. Il est très gentil avec nous.
Alors, moi je suis né à Casablanca, au Maroc. À la base, je voulais faire médecine. Je me suis retrouvé à rejoindre une école d'art à Toulouse, par chance, disons.
Comment vous êtes-vous lancé dans votre métier ?
C'était un peu par la force des choses. C'est en comprenant ce que je ne voulais pas faire que j'ai compris ce que je voulais le plus faire. Je pensais vouloir faire médecine, mais j'ai réalisé que faire des études qui duraient 13 à 14 ans n'était pas forcément ce qui me rendait plus heureux. Puis, par la suite, j'ai entamé des études d'architecture, mais je trouvais que ça restait très ou trop théorique pour moi. Et voilà. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que, en fait, quand je faisais de la sculpture, j'étais très heureux en faisant ça. Quand je faisais des films ou que j'écrivais, j'étais très, très, très heureux en faisant ça. Et je me suis rendu compte que je voulais faire un métier qui me rendrait heureux. Même si c'est quand même un métier très difficile à certains moments.
Quels matériaux utilisez-vous ?
En sculpture, j'utilise beaucoup le béton dans mon travail. Beaucoup de béton, aussi parce que j'ai grandi à Casablanca et je me suis rendu compte que c'était une ville... Enfin, j'ai grandi autour du béton, globalement. C'est un peu comme ici à Pantin ou comme dans beaucoup d'autres villes. Je me suis rendu compte que c'était presque mon élément naturel. Et du coup, j'ai commencé à utiliser ça dans beaucoup de mes œuvres. Au début, j'avais réalisé un petit tabouret traditionnel marocain qui, à la base, était fait en bois, en béton, qui malheureusement s'est perdu avec le temps. Puis ensuite, j'ai réalisé un petit trottoir à roulettes en béton, là encore. Puis un ensemble de chaises, puis j'ai commencé à faire des sérigraphies en béton, etc. Pour moi, c'est un matériau qui représente beaucoup notre époque.
Pourquoi les personnes marginales vous inspirent ?
Parce que ce qui m'intéresse, c'est les personnes à qui on ne donne pas spécialement l'opportunité de s'exprimer ou à qui on ne donne pas de voix ou alors qu'on souhaite ne pas regarder. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, ça faisait écho à ma condition ou au métier d'artiste d'une façon ou d'une autre. Parce que d'une manière ou d'une autre, quand on est artiste, peut-être que ce n'est pas forcément visible maintenant, mais à certains moments de la vie ou dans certains environnements, par exemple comme au Maroc, on se sent un peu à l'écart ou un peu en décalage. Et en fait, ce sentiment de décalage est quand même très présent. Et je me suis toujours intéressé aux métiers qui n'étaient pas socialement reconnus ou même qui étaient spécialement dévalués. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça un peu spontanément et aussi via mon éducation et mon histoire personnelle, disons.
Est-ce que vous collaborez avec les personnes marginales ?
Pour l'instant, c'était beaucoup plus par exemple, avec les chiffonniers, c'était beaucoup plus un travail où j'allais à leur rencontre et par la suite, il y avait un travail de captation de ce qu'ils faisaient. Par la suite, j'ai commencé à travailler avec un gardien de voiture à Marrakech. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une collaboration. C'était un espèce de travail conjoint où j'avais proposé à quelqu'un d'aller faire un stage chez lui. Puis par la suite, je l'ai filmé. Ensuite, je me suis un peu approprié tout ça, je l'ai transformé d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas fait autant que je le voudrais.
Que pensez-vous de ces personnes ?
Ouais, que ce sont des personnes comme tout le monde, mais qui sont... Enfin, en particulier les personnes qui exercent des métiers qui ne sont pas socialement reconnus. Je trouve que c'est quand même des personnes très, 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 très courageuses parce que ça implique beaucoup de détermination, de courage, de résilience, d'aller se lever le matin, d'aller faire un métier où personne ne va réellement le reconnaître. Et de se battre pour gagner sa vie à travers ça, sachant que parfois, on gagne très peu d'argent. Et je trouve ça fantastique. Et en particulier, les personnes que j'ai rencontrées au Maroc qui vont ramasser des ordures, les chiffonniers qui vont ramasser des ordures dans les poubelles, etc., etc. C'est vraiment un choix de leur part, ou parfois des conditions, que de faire ça pour éviter de se retrouver dans des situations plus difficiles ou alors à demander... l'aumône ou autre. Parce que, par exemple, c'est des pays où la sécurité sociale n'existe pas, le RSA n'existe pas. Voilà, par exemple.
Est-ce que vous êtes payé ?
Pour l'instant, c'est plutôt à travers des bourses que je me suis rémunéré et aussi des bourses de résidence. Donc, ici, à Arthagon, on a des ateliers pour un loyer qui est quand même très, très, très faible. Pour l'instant, je ne vends pas d'œuvres parce que je pense que c'est pas la destination principale de certains de mes travaux. C'était pas vraiment ma priorité à un certain moment, mais je pense que c'est en train de changer.
Et du coup, c'est quoi la destination de vos travaux ?
J'ai toujours beaucoup pensé à la diffusion plutôt à grande échelle et plutôt, je dirais pas gratuite, mais accessible à tous. Donc ça a été pour l'instant beaucoup les institutions, des centres d'art, des choses comme ça, et Internet. Et je trouve qu'Internet, c'est quand même un très beau moyen de diffuser son travail, même si économiquement, c'est pas rentable. En tout cas, pas pour l'instant.
Quel message voulez-vous faire passer ?
Je pense que le message principal de mon travail en général, c'est de ne pas se fier aux apparences, pas se fier à ce que tout le monde dit, pas croire les gens quand ils disent « ouais, c'est pas possible, faut pas faire ci, faut pas faire ça », parce que 99% du temps, ils ont tort. Ouais, et s'accrocher, même quand c'est difficile, et en fait, ne pas... Enfin, l'idée, c'est vraiment de ne pas suivre le choix des autres parce qu'ils sont plus nombreux. Il faut suivre son intuition quand elle te dit que c'est plutôt ça ou ça ou ça que tu as envie de faire, et quand on a un rêve ou quelque chose qui nous motive très fortement, bah, il faut le laisser vivre et il faut le laisser nous guider parce que c'est peut-être ça son... là où tu dois aller, d'une façon ou d'une autre. Et aussi, je pense que le message, c'est quand on est face à une situation qu'on ne comprend pas, le plus important, c'est de prendre un peu de recul et essayer de voir à peu près les choses différemment. Je pense que c'est un peu ça, le but de mon travail, faire voir d'une manière ou d'une autre différemment les choses.
Est-ce que vous aimez votre métier et pourquoi ?
Oui, j'adore mon métier, même si c'est très difficile parfois, économiquement. Je dis économiquement, mais pas que, même émotionnellement. Parce qu'en fait, on est dans une forme... d'incertitude permanente, ce à quoi je suis très habitué. Finalement, ça fait partie de ma personnalité de ne pas savoir de quoi est fait le lendemain. Mais d'un autre côté, ça donne lieu... C'est quand même incroyable d'avoir un métier où en fait, on est reconnu, ou en tout cas, on s'intéresse à ce qu'on fait parce que ça vient de nous. On est auteur, en fait. On est auteur et on passe par diverses formes. Et c'est aussi... un super prétexte pour aller à la rencontre de plein de gens différents et de vivre de la manière qu'on souhaite. Et je pense qu'il y a plein de façons d'être artiste et j'ai l'impression qu'il y a plein d'étapes dans la vie d'artiste. Donc là, je suis à une certaine étape et par la suite, j'ai envie de me développer d'une autre manière et de juste beaucoup, beaucoup, beaucoup aller à la rencontre des gens.
Excellent.
Mais ouais, vous étiez bien, hein. C'était bien, hein, franchement. Moi, ouais, j'ai trouvé que vous aviez assuré. Hein.
Ce podcast a été réalisé par les élèves de la 4e 4 du collège Jean Jaurès à Pantin.
Oumou, Sarah,
Layana,
Encelia,
Celia,
Kumba,
Selimata,
Mathis,
Noah,
Ayoub,
Maylon,
Idriss,
Nathan,
Johan,
Omar,
Mouad,
Nassim,
Islam,
Alex,
Amine, Simran, Fares, Jabba.
Avec l'aide de Laure Vatrin, Silsue Bertili et Natacha Lemaire de l'association Transsonore, Sonia Alouche, Lina Abdelouabi et Vivian Landau, leurs professeurs, Agnès Bajard et Mélanie Tatté, des bibliothèques de Pantin.